Je suis au cinéma Jean Eustache à Pessac, dans le cadre du Festival du film historique, avec Jean-François Bayon. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder du temps. Alors, vous enseignez à l'Université de Bordeaux le cinéma, aussi l'histoire des idées. La thématique consacrée à l'Angleterre au sens très large, puisque ça part de figures emblématiques comme Mary Stuart jusqu'au Brexit, ça vous interpelle ?
Oui, enfin disons que c'est un peu mon métier de parler de ça avec les étudiants, en particulier sous l'angle du cinéma. Mmh. Donc cette édition du festival a été faite pour moi.
Mmh. Et donc il y a des éléments en particulier qui vous attire plus que d'autres, vous parlez de l'histoire des idées, l'imaginaire autour des idées.
Il y a beaucoup de choses en fait qui m'intéressent dans le cadre de ce festival, et comme je fais partie du jury fiction, c'est très frustrant parce que je vais peu pouvoir profiter de la programmation, qu'il s'agisse des films ou qu'il s'agisse des débats. Mais j'ai pu assister par exemple à la conférence de Jean-Marie Tissier sur Orwell qui m'a beaucoup intéressé.
Que nous venons d'entendre d'ailleurs.
Il y a énormément de choses captivantes, des figures comme Churchill que je trouve tout à fait passionnantes, très complexes. Je crois que c'est l'occasion justement de creuser des stéréotypes, d'aller au-delà de ces stéréotypes. Je crois que c'est l'intérêt d'une manifestation comme celle-ci.
Et j'ai vu que vous avez énormément écrit sur Ken Loach. Ken Loach, dont nous avons plusieurs films qui sont proposés ici. Ken Loach, qui est en fait quelqu'un qui maintenant a traversé les frontières de par la problématique, à la fois le regard qu'il a posé sur le monde ouvrier, par exemple, qui est vraiment universel.
Oui, alors effectivement, j'ai commencé ma deuxième carrière d'universitaire, de chercheur, par une série d'articles sur Ken Loach, et ensuite j'ai essayé de dépasser un petit peu ce genre de travail, parce que il me semble dommage, comme Michel Simon l'a exprimé lors de sa conférence inaugurale, de réduire le cinéma britannique à sa dimension sociale et réaliste, puisqu'il y a beaucoup d'autres dimensions dans ce cinéma. Et ça me désole un peu de voir que les films de Ken Loach affichent complet pendant la programmation, alors que les spectateurs du festival négligent les autres aspects qui font davantage de place à l'imaginaire, à la fantaisie. Alors qu'en France, il est très facile de voir les films de Ken Loach, puisqu'il a beaucoup plus de succès chez nous qu'en Grande-Bretagne. Ce qui est paradoxal, puisque comme vous venez de le rappeler, c'est un cinéaste militant, un cinéaste d'intervention qui cherche à modifier les rapports sociaux dans son propre pays. Mais comme vous l'avez également souligné, c'est aussi un cinéaste qui a une dimension internationale, qui a fait des films sur des situations telles que la guerre d'Espagne, la révolution du Nicaragua et bien d'autres situations hors des frontières de son pays encore. Et c'est un cinéaste qui a aussi une renommée internationale de par sa présence dans de nombreux festivals. Cela dit, Michel Simon a eu l'occasion de le dire aussi, et je partage ce point de vue, il me semble que l'importance de Ken Loach en tant que cinéaste est exagérée. Il y a beaucoup d'autres cinéastes de très grand talent, et peut-être d'un talent plus grand en Grande-Bretagne aujourd'hui. Je pense à Mike Leigh, par exemple, ou à André Arnold, ou à Lynn Ramsey, qui a eu un prix à Cannes cette année, qui me paraissent des cinéastes de plus grande envergure et qui ont des choses peut-être plus intéressantes à dire.
Vous avez également écrit sur Peter Greenaway, qu'on avait souvent sur les écrans il y a encore deux décennies. Maintenant, on voit moins ses films. Greenaway, dont vous avez intitulé qu'il est un cinéaste contre nature.
Oui, c'est vrai. C'est parce que Greenaway... je vous remercie d'avoir prêté attention à cet article, qui est déjà ancien. Greenaway est un cinéaste que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement, tout comme Ken Loach d'ailleurs. Et Greenaway est un cinéaste qui, effectivement, a une carrière très sinueuse. C'est un cinéaste qui a aussi, de par sa formation d'artiste, c'est d'abord un peintre, c'est aussi quelqu'un qui a été monteur pour des documentaires. Donc c'est quelqu'un qui a une carrière qui n'est pas exclusivement une carrière de réalisateur, et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la construction des films, à la construction du regard dans et par les films,
Et sémantique aussi des films.
Tout à fait, oui, oui. Et au cinéma, comme porteur d'illusions, trompe-l'œil, justement, et au danger de croire dans ce que les images nous racontent. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je m'étais intéressé à lui. Et c'est en cela qu'il se différencie de quelqu'un comme Ken Loach, qui a peut-être un peu trop tendance à nous raconter les histoires dans lesquelles nous serions censés croire immédiatement et de façon un peu au premier degré. L'une des raisons pour lesquelles Greenaway a une carrière un petit peu à éclipse, en tout cas d'un point de vue français, c'est que d'une part il a beaucoup consacré une partie de son énergie à des installations dans de nombreuses villes du monde, à des opéras, voilà, c'est un cinéaste un peu multicarte, un artiste multicarte. Mais il est revenu au cinéma ces dernières années. Il a fait pas mal de films très intéressants, dont beaucoup ont été montrés en France. Et très récemment, il a démarré une série de films consacrés au cinéaste Eisenstein. Le premier volet a été montré il y a, je crois, 2 ans en France. Et je crois qu'il vient de terminer le second volet. Mais c'est un cinéaste imprévisible. Et je trouve très, très intéressant, même encore aujourd'hui.
Et Mike Leigh ou Stephen Frears sont également des cinéastes qui sont appréciés, mais peut-être moins connus du grand public. Ça s'explique comment ?
Alors, Mike Leigh est un cinéaste qui a fait relativement peu de films, en raison notamment de sa méthode très très originale, qui consiste à travailler sur une base quasiment vierge. Au départ, il a une idée de sujet et il travaille avec les acteurs, en collaboration avec les acteurs, à l'élaboration des personnages, des situations, et petit à petit le scénario se construit lors de longues semaines et parfois de longs mois de répétition, avant qu'une seule image soit tournée et même qu'une seule ligne du scénario soit écrite. Donc ça explique que d'une part il ait des budgets relativement réduits, puisque pour obtenir des financements c'est un peu plus compliqué que s'il avait un scénario tout prêt à montrer aux financiers. Et d'autre part, ça veut dire qu'il a une élaboration des films qui est à maturation lente, on pourrait dire. Donc ces films sont relativement espacés dans le temps. Donc il en fait beaucoup moins que des cinéastes comme justement Ken Loach, qui nous habitue maintenant à voir au moins un film par an. Dans le cas de Frears, c'est un peu différent. Frears est un cinéaste qui est à cheval sur les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui produit beaucoup et qui a... dont le style est peut-être moins facile à identifier que celui d'un Mike Leigh, d'un Greenaway, enfin tous les cinéastes dont je viens de parler, puisque c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à partir de scénarios très variés, qui s'appuie sur des collaborations chaque fois à géométrie variable, et qui n'a pas, enfin il l'a dit souvent dans des entretiens ou des masterclass, il n'a pas l'ambition de mettre en avant son style d'auteur. Il se met au service des scénarios, au service des acteurs, au service des sujets. Mais je trouve que au fur et à mesure de sa carrière, on peut retrouver des fils conducteurs, mais peut-être pas suffisamment pour que les spectateurs ou le grand public identifient un film de Frears spontanément. Moi, je trouve que, par exemple, on retrouve chez Stephen Frears une situation très fréquente qui est le duo de personnages aux humeurs incompatibles, mais qui vont apprendre à coexister, à se connaître. Typiquement, pour prendre des grands succès tout de même de Stephen Frears internationalement, c'est The Queen, où le personnage de Tony Blair et le personnage de la reine Elizabeth II vont apprendre à s'estimer, à se connaître et à œuvrer ensemble. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples de ce genre de configuration chez Frears depuis très très longtemps.
Et puis il y a un cinéaste qu'on a moins entendu en Europe, parce qu'il est parti travailler aux États-Unis, c'est Kenneth Branagh, qui nous avait habitué à remettre au goût du jour de manière assez ludique, assez joviale, Shakespeare par exemple, avec Much Ado About Nothing, enfin des films qui faisaient la part belle aux classiques de l'Angleterre.
Oui, alors Kenneth Branagh, c'est un cas très très intéressant, il est très difficile à appréhender. Et comme vous le dites, on l'a au début un peu catalogué comme le nouveau Laurence Olivier d'une certaine façon. D'ailleurs, il a tout fait pour ça, puisqu'il a commencé sa carrière de réalisateur avec Henri V, à la fois pour se démarquer du grand modèle du film génial d'Olivier. Et par la suite, il a cherché aussi à se différencier, à faire un peu autre chose. Et effectivement, il a eu une carrière hollywoodienne très imprévisible, avec des films de super-héros, avec une version de Cendrillon, que personnellement j'aime beaucoup. Et il est revenu un petit peu à Shakespeare avec une version d'As You Like It qui est, il faut le dire, assez désastreuse. Et parallèlement, il continue de mener une carrière au théâtre, en tant que metteur en scène, en tant que producteur de théâtre, où il retrouve Shakespeare, où il retrouve aussi Laurence Olivier, puisqu'il a repris à Londres l'an dernier un des rôles phares de Laurence Olivier, qui était The Entertainer de John Osborne. Donc je pense que le fantôme d'Olivier continue de le hanter. On verra bien ce que donne sa nouvelle version du Crime de l'Orient Express d'après Agatha Christie. Mais là aussi, il y a déjà un grand modèle qui est le film de Sidney Lumet de 1974. Et on peut craindre que le film de Branagh souffre de la comparaison.
Bien qu'il soit très attendu, en tout cas, parce qu'il sort prochainement sur les écrans. Vous ne l'avez pas encore vu ?
Hélas non, et je vais malgré tout aller le voir dès qu'il sortira, bien sûr, et le casting est très prometteur.
Voilà. Après avoir relu Agatha Christie, bien évidemment.
Oui, c'est un roman que j'aime beaucoup.
Vous avez également énormément écrit sur Newton, sur toutes les facettes, le rapport à la religion, mais aussi en soulignant qu'il était l'adversaire des innovateurs.
Alors effectivement, c'est ma première carrière d'universitaire, puisque j'ai fait une thèse consacrée à Newton et à ses manuscrits religieux. Peu de gens savent que Newton était un théologien avant d'être un scientifique. C'est quelqu'un qui a consacré une très très grande partie de sa vie et de son énergie, de sa longue vie et de son énergie à réécrire l'histoire de l'Église, l'histoire des pères de l'Église, pour démontrer que effectivement le dogme de la Trinité, qui est tout de même le dogme majoritaire dans la plupart des églises, que ce soit catholique ou protestante, était une hérésie, était une invention métaphysique qui avait détruit ce qui, selon lui, était la pureté de la foi chrétienne des origines. Donc c'était une sorte de forme de radicalisme protestant tout à fait extrême, mais qui était évidemment considéré comme une hérésie à l'époque de Newton. Et c'est raison pour laquelle cette partie de l'œuvre de Newton est très peu connue et restée sous forme de manuscrits dont certains circulaient clandestinement à l'époque.
Okay. Qui faisait partie des documents qui étaient cachés, sous scellés au Vatican ?
Alors pas au Vatican, non, c'est une partie des manuscrits de Newton qui, comme le reste d'ailleurs, a fait l'objet d'une vente aux enchères en 1936 chez Sotheby's à Londres, et ce qui a provoqué la dispersion des manuscrits de Newton au XXe siècle, ce qui fait que pendant longtemps il a été assez difficile de reconstituer cette pensée. Ça n'est que récemment qu'il était possible de vraiment travailler dans de bonnes conditions sur ce sujet-là. Alors, surtout à partir du moment où l'Internet a permis d'avoir accès, comme c'est possible maintenant, à la numérisation de ces manuscrits. Mais à l'époque où j'ai fait ma thèse, ça n'était pas le cas. Donc j'ai dû beaucoup voyager pour avoir entre les mains soit des microfilms, soit les manuscrits authentiques qui documentent cette partie, comme je dis, très importante hein, de la pensée de Newton. L'autre partie importante, c'est l'alchimie, qui égale au moins en volume la partie considérée aujourd'hui comme scientifique, mais pour Newton, il n'y avait pas de différence entre l'alchimie et la science.
Et vous avez dû aller dans quelle library, quelle bibliothèque ?
Alors, je suis allé, toutes les personnes qui travaillent sur Newton, je suis allé à Cambridge et à Oxford. Mais je suis aussi allé à Jérusalem, puisque l'un des principaux acquéreurs du fonds qui a été dispersé en 1936 était un érudit juif qui s'intéressait aux prophéties, tout comme Newton, puisque l'une des grandes obsessions de Newton tout au long de sa vie a été l'interprétation des prophéties, que ce soit les prophéties de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et donc cet érudit a choisi d'acquérir une partie très importante des lots consacrés à l'interprétation des prophéties, et ces lots ont été, après la mort de ce personnage, légués à la bibliothèque hébraïque de Jérusalem, où il a fallu que je me rende pour les consulter.
Et vous êtes intéressé également à une figure qui est restée importante dans l'histoire, Mary Shelley.
Oui, effectivement, je m'intéresse beaucoup à elle à cause de la figure de Frankenstein, puisque l'un de mes domaines de prédilection, c'est le cinéma d'horreur, les fictions d'horreur. Et puisqu'il se trouve que l'une des grandes sociétés de production britanniques qui se sont spécialisées dans le cinéma d'horreur, la Hammer, a consacré beaucoup de films à des variations sur la figure de Frankenstein. Je me suis du coup un petit peu intéressé effectivement à Mary Shelley, mais je ne suis pas un véritable spécialiste de Mary Shelley.
Je rebondis sur vos propos, Jean-François Bayon, vous parlez du cinéma d'horreur. Cinéma d'horreur actuel, vous trouvez qu'il se porte bien ?
Alors ça dépend de quoi on parle, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a notamment un renouveau, que ce soit en provenance de Grande-Bretagne depuis les années 90, avec effectivement une horreur qui se caractérise à la fois par... Un discours sur la société actuelle, finalement, des métaphores qui nous sont proposées sur des développements, sur toute la manipulation génétique, par exemple, ou la société de surveillance à travers les figures du zombie, que ce soit des films comme... Ou des variations sur des figures qui ne sont pas tout à fait le zombie, mais qui lui ressemblent, des films comme 28 jours plus tard, par exemple, ou 28 semaines plus tard. De Danny Boyle et de son successeur dans la suite qui a été au néo-film, ou des films en provenance des États-Unis avec un renouveau de la part de cinéastes qui sont de très jeunes cinéastes et qui proposent des films où l'horreur n'a pas de figure véritablement identifiable, où elle devient insaisissable. Elle est dans le non-vu, le non-dit, et donc on n'a plus de monstre finalement. L'horreur est impalpable, et je trouve qu'on a
psychologique peut-être plus développée.
Oui, ou bien et là aussi, elle sert à dire des choses sur la société. Je songe à des films récents qui nous montrent qui nous parlent de la manière dont la minorité noire est traitée, par exemple, comme Get Out, par exemple, des films de ce genre-là. Qui sont tout à fait intéressants, ou It Follows, enfin, j'ai plus le titre en tête, mais qui vraiment renouvelle de fond en comble, ou The Witch, qui renouvelle de fond en comble les figures classiques de l'horreur, et donc je crois effectivement que nous vivons un nouvel âge d'or du film d'horreur.
Donc de ce côté-là, il faut rester attentif, il y a des choses qui vont sans doute être très riches, très intéressantes.
Oui, mais il y en a déjà beaucoup. Il n'y a pas de souci à se faire. D'ailleurs, je ne crois pas personnellement dans le mythe de l'âge d'or du cinéma d'horreur dont il faudrait être nostalgique. Je pense que si on regarde dans les interstices, par exemple, l'immédiat après-guerre en Grande-Bretagne a fourni une pléthore de films gothiques. Alors, c'est pas tout à fait l'horreur, mais c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. Soit sous forme d'adaptation de classiques, du film, du roman ou des fictions de l'étrange. Je songe par exemple une version de la Dame de Pique par un très très grand cinéaste britannique qui s'appelle Thorold Dickinson et qui est un des très très grands films gothiques, britanniques, qui invente quelque chose qui ne ressemble à rien. Des adaptations de Sheridan Le Fanu, enfin il y a vraiment des choses qui se passent. À partir du milieu des années 40, avec évidemment le film phare de l'époque qui est Dead of Night, Au cœur de la nuit, qui est un film à sketch chapeauté par Alberto Cavalcanti, mais avec tous les grands cinéastes de la firme Ealing de l'époque qui s'y attellent et qui renouvellent à l'époque complètement le genre et, je pense, ouvrent des perspectives qui sont... à la fin des années 40, exploré d'une façon qui est encore, je crois, méconnue aujourd'hui. C'est une époque qui n'est pas bien répertoriée, bien étudiée. Je pense à cause du fait que la Hammer émerge en 1957 avec Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher et éclipse peut-être la période précédente.
Jean-François Bayon, là, en vous entendant parler à la fois du gothique et du cinéma d'horreur, ça me fait penser à Dario D'Argento qui est encore en train de produire et de réaliser.
Oui. Je ne suis pas spécialiste de tout, donc j'ai peut-être un peu de mal à parler de l'actualité d'Argento. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant quand on parle du giallo plus généralement et du renouveau qu'a apporté avant Argento un cinéaste comme Mario Bava, par exemple, c'est que ces cinéastes-là se réclamaient ouvertement de l'esthétique de la Hammer et leurs premiers films étaient des films qu'ils signaient sous des pseudonymes anglais. Tout comme Sergio Leone avec les Western Spaghetti, où il y avait des noms anglais qui apparaissaient au générique. C'était une façon, je pense, à la fois de rendre hommage à un modèle. D'ailleurs, quand on regarde des films, les premiers films de Bava ou les premiers de Giallo, donc l'italien, on voit à la fois l'influence esthétique et aussi. On se rend compte que si on les compare à certains films de la Hammer qui n'étaient pas des adaptations de Mary Shelley ou de Bram Stoker, etc., mais plutôt des espèces de thrillers psychologiques qui eux-mêmes étaient des dérivés de Psychose ou des Diaboliques de Clouseau, on se rend compte qu'il y a une continuité. C'est-à-dire que tout comme les Italiens ont imité les Anglais au milieu des années 60 à peu près, ou même un petit peu avant, dès la fin des années 50, en fait, les Anglais de la Hammer ont imité quelques grands modèles que je viens de citer, et se sont imités eux-mêmes, puisque parmi les grands maîtres, les films phares qui ont lancé le genre du thriller psychologique, il y avait Psychose, évidemment, il y avait Les Diaboliques de Clouseau, mais il y avait aussi Peeping Tom, le voyeur, hein, de Michael Powell, et ces films-là ont vraiment lancé toute une vogue d'imitation dans laquelle la Hammer s'est engouffrée avec gourmandise jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand on regarde toute la production de la Hammer jusqu'à la fermeture du studio dans la deuxième moitié des années 70, on se rend compte qu'ils n'ont cessé de produire des variations sur ce modèle, modèle qui a été lui-même alimenté par des films américains, comme par exemple Qu'est-il arrivé à Baby Jane, qui eux-mêmes se nourrissent de ce courant. Donc il y a un va-et-vient complexe qui est très intéressant à étudier.
Et enrichissant de part et d'autre.
Tout à fait, oui. Donc c'est très très difficile d'isoler comme ça des écoles en disant voilà, il y a d'un côté les Italiens qui font ça, les Anglais qui font ça, les Américains qui font ça. Alors c'est globalement vrai, mais il y a beaucoup de porosité entre ces courants aussi, et c'est très très intéressant.
Alors je dois bientôt vous libérer, Jean-François Bayon, mais j'aimerais encore que vous nous parliez de Renoir. Vous avez écrit sur Renoir, la règle du jeu.
Alors c'est vrai, j'ai coordonné il y a longtemps un volume à visée pédagogique sur La règle du jeu, qui est un film que j'aime beaucoup. Et que dire sur Renoir, c'est un cinéaste immense, hein, qui a été beaucoup admiré de la critique britannique des années 50, enfin fin des années 40, début des années 50, les gens de ce qu'on a appelé, peut-être avec un certain abus de langage, la nouvelle vague qui a succédé au Free Cinema, enfin c'était les mêmes gens, hein, Anderson, etc. Et alors, s'il y a un cinéaste qu'il faut nommer de ce point de vue-là, c'est sans doute, pour revenir au début de notre conversation, Mike Leigh. L'un des grands modèles de Mike Leigh est sans doute Renoir. Il le cite régulièrement dans les entretiens. Et à la fois en raison de ce que, à tort ou à raison, Mike Leigh puise en matière de naturalisme chez Renoir, mais aussi d'une certaine vision, généreuse et relativiste d'une certaine façon, d'un point de vue moral, puisqu'on a chez Renoir comme chez Mike Leigh des personnages qui sont développés, qui sont amples, qui sont complexes, et dont il serait bien difficile de dégager un point de vue surplombant, moralisateur, globalisant. Voilà, c'est à ça que nous sommes confrontés, finalement. La fameuse formule d'Octave dans La règle du jeu, tout le monde a ses raisons. Chez Mike Leigh aussi, tout le monde a ses raisons, et je crois que c'est quelque chose qui est en commun entre les deux cinéastes.
Merci Jean-François Bayon de nous avoir accordé du temps. Et bon festival.
Je vous remercie, et bon festival à vous aussi.
Merci. Attendez.